I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X. Le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous savez, on dit souvent « quand c'est fini, c'est fini ». Surtout chez les femmes qui, quand elles partent généralement, ne se retournent pas. Mais malgré tout, est-ce que la flamme peut se rallumer ? Est-ce que c'est vraiment possible de retomber amoureux après ne plus avoir aimé du tout ? L'épisode de Muriel devrait vous aider à répondre à cette question.
Alors, on est en 2005, j'ai 31 ans, je suis mariée depuis 4 ans avec le père de mon fils, qui a 2 ans et demi, et on s'est un peu perdu en tant que couple, on est dans une coparentalité pleine de respect, d'amour, on élève notre fils, mais voilà, l'amour s'est un peu éteint avec l'arrivée de l'enfant, etc., le grand classique. Moi, je suis en reconversion professionnelle et je m'oriente vers la presse. Et je commence à faire des missions en fait de remplacement dans un groupe de presse. Je croise souvent un homme que je ne connais pas et physiquement il me plaît énormément. Voilà, c'est une espèce de choc physique. Et puis voilà, je le croise de temps en temps. À chaque fois, je me dis mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est un peu le genre d'homme qui me plaisait quand j'étais ado et à qui je ne plaisais pas. En fait, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire le grand sportif, brun, un peu musclé, très élégant. Moi, j'ai plutôt eu des histoires avec des hommes, ça se plaçait plutôt sur un plan intellectuel. J'étais quasiment jamais séduite par un physique, ou alors quand j'étais séduite par un physique, moi, je plaisais pas. Donc, Philippe, puisqu'il s'agit de lui, c'est une espèce de fantasme adolescent. Voilà, donc ça m'amuse, en fait, quand je le vois, je me dis « Ah, t'es vraiment une midinette », etc. Et puis voilà, ma vie continue. Et puis, en 2006, la situation s'est un peu dégradée à la maison. On n'arrive pas à trouver un appartement plus grand parce que moi, j'ai pas encore trouvé de boulot fixe. Enfin, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que tout est un peu grippé, en fait. Les rapports avec mon mari sont respectueux. On se parle beaucoup, mais on est vraiment dans la coparentalité. On est devenus des parents, en fait. Lui ne me regarde plus comme une femme. Moi, je le vois comme un père qui va pouvoir assurer les nuits, emmener notre fils chez le pédiatre, ce genre de choses. Donc, c'est très bien, c'est très rassurant. On est vraiment comme des amis qui sont dans un cocon. Mais en même temps, on pressent que cette bulle, elle va pas durer, en fait. On sait que notre histoire d'amour est en train de se terminer. Donc, c'est à la fois très beau et très poignant, quoi. Il y a un truc, on le sait tous les deux. Et on sait pas de quel côté ça va partir. Il me dit toujours, mais c'est toi qui vas partir. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et tu feras un autre enfant avec quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est une façon de conjurer les choses. Voilà, mais il essaie de rendre ça un peu léger. Et du coup, on se blague un peu là-dessus pour masquer la gravité de la chose quand même, parce que c'est quand même un grand amour qui est en train de s'éteindre. Cet homme, en fait, c'est un peu mon bonbon. C'est-à-dire, quand je vais dans ce groupe pour travailler, ça me sort de mon quotidien d'emmener l'enfant à la crèche, etc. Je le regarde de loin, j'ai des petits papillons, comme une adolescente, vraiment. Et il me semble complètement inatteignable. C'est un gros cliché, mais c'est un peu le capitaine de l'équipe de foot. Après, heureusement, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus que ça. Et voilà, mais sur le moment, c'est vraiment ça, donc ça m'amuse. Et puis, arrive 2006, et mes 32 ans, c'est aux alentours de mon anniversaire, on se retrouve à travailler ensemble directement, ce qui n'était alors jamais arrivé. Donc, je dois monter au 6e étage pour lui apporter des épreuves, etc., qu'il regarde. Donc, évidemment, je monte 5 fois par jour, alors qu'une fois suffirait. Je m'attarde devant les ascenseurs pour essayer de le croiser. Enfin, on est dans le cliché total. Il est très aimable, je peux pas dire autre chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait une étincelle dans son regard. Il est comme il est avec tout le monde, charmant, toujours très dynamique. Je reconnais son pas du bout du couloir. Il a une façon très particulière de marcher. Très dynamique, quoi. Je peux pas dire autrement. Et il est très frais, quoi. Il a une espèce de juvénilité. Il a à peu près mon âge, il est un peu plus âgé, mais il y a un truc qui me touche énormément. Mais rien de particulier de sa part, aucun signe que je lui plais. Et puis, un jour, je me lance. Je me dis, parce que l'attirance ne fait que croître et je me rends compte que je le guette de plus en plus. Je me dis, il faut que j'en ai le cœur net. Et donc, je lui propose de déjeuner. Je lui envoie un mail. Et il descend me voir et je me souviens, il s'accroupit à côté de mon siège de bureau. Et là, je sens son parfum. Il y a une espèce de volute comme ça qui m'arrive et je suis complètement subjuguée. Et donc, il me dit, bon, alors quand est-ce qu'on fait ça? Comme un copain, quoi. Ce fameux jour du déjeuner arrive le 3 mai 2006. Je me souviens très bien que ce matin du 3 mai, on se chamaille un peu avec mon mari parce que il a un rendez-vous professionnel qu'il a fixé à la maison, ce qui est dingue, la maison est en vrac, moi je suis en vrac aussi. Et j'ai prévu justement de me faire le brushing, enfin bref, de me lisser les cheveux, etc. pour ce déjeuner. Et donc il m'annonce que quelqu'un arrive dans 5 minutes et je suis avec la grosse brosse ronde en train de me lisser les cheveux. Et donc on se chipote un peu là-dessus. Et je pars. Et donc ce déjeuner se passe. Moi, je me souviens que j'ai d'énormes lunettes noires, qui sont mes lunettes de soleil, et je n'arrive pas à les enlever de tout le déjeuner. Bon, il fait un peu soleil, mais pas au point de passer un déjeuner. Et en fait, je pouvais pas parce que je me disais que si il voyait mes yeux, il comprendrait tout, il lirait en moi. Et ce déjeuner se passe de manière un peu lunaire. Donc moi, je l'observe, je suis un peu très réservée, très timide. C'est un enjeu énorme pour moi et pour lui, pas du tout. Et il me parle de sa femme, d'éventuels projets de déménagement en Bretagne où elle aimerait ouvrir une boutique de je ne sais quoi. Donc, je m'affaisse intérieurement pendant ce déjeuner. Je me dis, l'affaire est réglée, je me suis fait un film, il se passera rien, apparemment. Je me suis trompée, j'ai eu un pressentiment, mais en fait rien du tout. Et on se sépare, lui toujours charmant, mais sans plus. Sans autre rendez-vous fixé, sans si ce n'est se croiser à nouveau pour le travail. Et je monte, je me réinstalle à mon bureau et je ressasse ce déjeuner tout en travaillant. Et je me dis quand même, comment j'ai pu me tromper? J'ai toujours eu quand même un assez bon radar. C'est-à-dire que j'ai pu fantasmer sur des hommes ou flasher sur des hommes dans mon adolescence et ma jeunesse. Mais j'ai toujours su quand il y avait peut-être une ouverture où je me suis jamais pris des murs. En fait, j'ai un bon radar quand même. En général, je sais à qui je peux plaire ou pas ou voilà. Et donc, je rédige un mail, je le tourne de manière assez légère, parce que je me sens pas légère du tout, mais je me dis, faut que ce soit léger, parce que si jamais il y a vent, il faut que le vent soit une petite brise, et non pas un ouragan. Et puis je me dis, surtout, on va continuer à travailler ensemble, donc ce serait extrêmement gênant, même si je sens que c'est quelqu'un de sain et de pas tordu, et qui me le fera pas payer d'une manière ou d'une autre. Et surtout, cet homme, il n'est pas disponible. Moi, je me sens à moitié disponible puisque je me suis ouvert cette porte. Donc, j'écris ce mail. Je suis totalement fébrile, mais j'arrive à le tourner avec un peu d'esprit, un peu d'humour, de la légèreté. Je l'envoie comme une bouteille à la mer. Je me replonge dans le travail. Je dis dans ce mail simplement qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dites pendant ce déjeuner que j'aurais aimé dire. mais que si ça doit rester comme ça, ça restera comme ça, c'est très bien. Donc je ne me dévoile pas, tout en me dévoilant, enfin voilà, c'est un peu mon métier l'écriture, donc c'est assez facile de le tourner de manière légère et pas trop impliquante, et voilà. Et donc j'oublie ce mail, je me replonge dans le travail, et à ma grande surprise, la réponse a fusé. Et donc ça doit être dans la demi-heure qui suit. Alors que lui, il est très occupé, il a un gros poste, et la réponse me désarçonne, parce que la réponse, elle est très positive. Elle est un peu comme la mienne, c'est-à-dire qu'elle se dévoile sans se dévoiler. Cette réponse dit qu'il aimerait prolonger ce moment. Donc on se redonne un autre rendez-vous. Mon émotion, quand je reçois cette réponse, c'est d'abord une confirmation d'un pressentiment. C'est à double tranchant, je me dis c'est le début des ennuis. C'est la fin de la tranquillité, ça y est, on est dedans. Alors qu'il ne s'est rien passé, hein, on est d'accord, c'est un déjeuner, un échange de mails. Tant et si bien que le soir, je rentre chez moi, je retrouve mon mari, on dîne, comme on le fait souvent devant la télé, en regardant les infos, sans trop se parler, mais bon, voilà, on se raconte un peu notre journée. Et puis l'angoisse commence à monter pendant le dîner. Et à un moment, j'éteins la télé et je lui dis « j'ai rencontré quelqu'un ». Et lui me connaît très bien, me connaît par cœur, et donc il pressent tout de suite que c'est important. Il me dit rien d'ailleurs, je sais plus, je crois qu'on se parle pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression de me vider de mon sang. Enfin, j'ai l'impression de lui avoir dit « je pars demain, je fais ma valise ». Lui, il se trouve qu'il a une espèce de bureau où il travaille, parce que bon, il travaille aussi à la maison la plupart du temps. Et il part se réfugier là-bas, parce que c'est trop dur pour lui, je pense. On se dit qu'on s'aime au moment où il part. C'est très bizarre, moi je pleure. Et c'est le début de l'histoire. Alors derrière cet échange de mails, je pense que Philippe se rend compte aussi de la montagne qui est devant lui, parce que lui, il faut savoir qu'il est dans une situation conjugale qui est beaucoup plus compliquée que la mienne. Ils ont des problèmes de couple, les rapports sont très tendus, donc il pressent que ça va être très compliqué. Sa famille, à elle, est assez interventionniste, ses parents sont omniprésents. Donc, il me dit tout de suite, après notre deuxième rendez-vous, il me dit que il veut absolument prendre son temps. À ce deuxième rendez-vous, on se retrouve dans le bar d'un hôtel près de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il n'y a pas de baiser, toujours pas, non. Il y a un flirt, il y a un étonnement mutuel aussi de se rendre compte qu'après tant d'années en couple, chacun de notre côté, on peut vibrer pour quelqu'un. Je pense qu'on vit tout ça un peu en même temps tous les deux. Et on est étonnés de vivre ça en même temps. Et puis donc c'est assez léger, etc. Et la réalité va précipiter un peu les choses de manière très brutale pour lui. C'est que Philippe a imprimé ce fameux mail que je lui ai envoyé suite à notre déjeuner. Oui, à l'époque, on imprimait encore des mails. Pour le lire, le relire dans le métro, voilà, il l'a mis dans son sac de travail, sac à dos, j'en sais rien. Et sa femme a senti quand même chez lui, parce que c'est quelqu'un qui masque pas du tout, qu'il y avait quand même un changement d'attitude. On se parle de ça, c'est sur une semaine. Et donc, elle a fouillé dans ses affaires et elle a trouvé ce mail. Et donc là, c'est un peu le drame chez lui. C'est-à-dire que le soir même, elle le met à la porte avec un sac, avec quelques affaires. Et il ne mettra plus jamais les pieds dans cet appartement où il a vécu 10 ou 15 ans avec ses deux petits garçons. Donc pour lui, c'est un énorme choc, sachant qu'il ne s'est rien passé entre nous. Et ce qui est fou surtout, c'est que autant moi, mon mari a une espèce de... Comment dire ? Il lutte un tout petit peu au début et il comprend très vite, me connaissant, que si ça s'est passé, si j'ai rencontré quelqu'un, c'est que c'est sérieux ou en tout cas que notre histoire s'achève. De toute façon, on le savait déjà, mais ça vient comme une confirmation. Et puis, c'est quelqu'un qui me dit, en le pensant vraiment, moi, je veux que tu sois heureuse, parce que si t'es heureuse, notre fils est heureux. Et voilà, c'est ça aussi l'amour. C'est l'amour qui se transforme, c'est aussi ça. C'est être heureux que quelqu'un s'épanouisse ailleurs. Je crois que je connais pas grand monde qui pourrait dire ce genre de choses. Donc, il me facilite beaucoup la vie. Il m'aide quand même pas à trouver un appartement, mais il me permet de... Il garde notre fils quand je vais en visiter, etc. Et Philippe, il vit la situation inverse. C'est-à-dire qu'il se retrouve du jour au lendemain chez ses parents à 35 ans, voilà, à devoir chercher un appartement dans l'urgence, avec en plus des échanges très compliqués avec sa femme. Mais il arrive quand même à nous garder des bulles, des petites poches comme ça de rendez-vous, dont celui du premier baiser. Alors là, on s'échappe tous les deux, on se donne rendez-vous dans un parc près du travail. Vers 16h, je lui donne un rendez-vous et là, c'est le premier baiser. Et c'est vraiment... Je crois que j'ai jamais vécu un premier baiser comme ça, en fait. C'est d'abord une sensation physique et c'est l'impression de cimenter quelque chose, d'une fusion évidente. C'est fou. Ce premier baiser, pour moi, il est fou. Et on va se retrouver comme ça pour des déjeuners. Alors, on se retrouve sur la gastronomie, sur des choses. Donc, on se retrouve pour des moments comme ça. Et à chaque fois, on a les étreintes. Elles durent. Je me souviens d'un soir où on sort dîner et on n'arrive pas à se séparer. C'est-à-dire qu'on s'embrasse pendant, je ne sais pas, une heure. Et au bout d'un moment, il faut que je rentre. Il faut que je me couche. Le lendemain, je travaille, lui aussi. Enfin, voilà. C'est très banal, tout ça. Mais quand on le vit, ça, c'est tout sauf banal, en fait. L'été se passe, donc Philippe est une fois chez son père, une fois chez sa mère, il finit par trouver un appartement. Je crois que je trouve un appartement avant lui, dans mon quartier, donc je reste dans mon quartier pour être le plus près possible de l'école de mon fils. Voilà, donc notre histoire démarre et c'est une histoire merveilleuse, on se découvre. Je découvre évidemment que derrière son physique, que j'adore, il y a plein de choses qui me plaisent, c'est un homme très doux. Je me sens aimée, je me sens comblée, j'ai pas de mots, en fait. Je me dis juste que j'ai une chance folle. Et voilà, et donc on vit 2 ans comme ça, de légèreté, toujours lui avec des drames du côté de sa femme, future ex-femme. C'est très douloureux, très très douloureux. Voilà, donc c'est très bien qu'on soit chacun dans notre bulle avec nos enfants. Moi, ça me permet aussi de profiter de mon fils, qui est tout petit, hein, qui a 3 ans et demi, 4 ans. Et on voyage un petit peu, on fait se rencontrer nos enfants. Et comme les deux plus jeunes ont le même âge, ça se passe tout de suite très, très bien. Ils jouent ensemble, c'est super. Donc, ça nous donne une petite idée de ce que ça pourrait être si un jour on vit ensemble. Et puis, 2 ans après notre rencontre, en 2008, on s'installe tous les 5 dans un appartement, dans un quartier qu'on aime bien, proche des parents des enfants. Et au début, ça se passe très, très bien. C'est-à-dire que chacun semble à sa place. Moi, je me pose pas tellement de questions sur ma place. Je me dis que ça va aller de soi, naïvement. Que bah, comme je l'aime lui, je vais aimer ses enfants et que je vais les accepter. Sauf qu'évidemment, chacun arrive avec ses histoires. Enfin, nos enfants sont les enfants d'autres parents qui ont eux-mêmes leurs histoires. Dès qu'on est tous les deux, on est sur notre nuage. Moi, je me suis mise au sport. Quand je l'ai connu, je me suis mise à courir. Donc, on fait des marathons, on s'entraîne. On court pas ensemble parce qu'il court beaucoup plus vite que moi. Mais bref, on a cette passion commune, les voyages, les bons restaurants. On est vraiment dans notre bulle. Et puis, on redéménage, on prend un appartement un peu plus grand dans le même quartier. Et à partir de là, c'est pas lié du tout à cet appartement, mais à partir de là, on est en 2012, je dirais. Les choses sont moins évidentes. Alors, évidemment, la passion des débuts a laissé la place à quelque chose de plus calme. Et on est beaucoup plus dans la gestion du quotidien. Moi, ça commence à me peser beaucoup d'avoir la charge mentale de ces enfants quand ils sont là, parce que de fait, je suis toujours celle qui rentre plus tôt, je suis celle qui anticipe, je suis celle qui fait les courses pour tout le monde. Donc je me retrouve avec une charge mentale qui commence à me peser énormément. J'en parle à Philippe, on n'arrive pas à s'entendre là-dessus. Le dialogue se rompt un peu, ça se transforme en conflit de plus en plus souvent. Et ça déborde sur les enfants, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette situation que beaucoup de familles recomposées doivent connaître, qui est, on pense traiter, entre guillemets, de la même façon nos enfants et ceux des autres. En réalité, c'est pas du tout le cas. Et c'est un truc qui est complètement inconscient. Ça entache notre histoire et quand on est dans ce genre de situation, on voit pas comment s'en sortir puisque on n'arrive plus à s'en parler calmement. C'est-à-dire que ça part tout de suite dans les tours. Et moi, j'ai tendance à vouloir beaucoup en parler. Philippe a tendance à se retrancher, à s'emmurer, à se taire. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça a une incidence très forte sur notre couple. Dans l'intimité, au quotidien, on n'est plus que dans la gestion du quotidien. Et ça a une telle incidence que moi, je n'ai plus envie de faire de projet avec lui. On a décidé, c'est surtout moi qui ai décidé qu'on n'aurait pas d'enfants ensemble. Donc, on a ce projet-là, on ne l'a plus. On n'a pas d'autres projets, on n'a pas acheté d'appartement. Et même les voyages, même les petits projets, je n'ai plus envie. J'ai envie de faire des choses toute seule, j'ai envie de me retrouver. Donc, il y a un profond déséquilibre qui s'instaure dans notre couple, où lui me court un peu après, et moi, je suis dans la fuite permanente. J'ai un petit appartement en Normandie que j'ai acheté, donc je m'y échappe dès que je peux. Je vois beaucoup mes copines toutes seules, voilà. Et puis, j'ai un projet qui se concrétise avec ma sœur. On a très envie de retourner sur la terre de nos ancêtres, pas très loin, en Espagne, et d'emmener nos enfants. Et donc, c'est un projet dont Philippe est exclu. Et quand j'entame ce projet, en fait, là, ça scelle quelque chose de compliqué pour lui. En 2018, on décèle à mon père une démence sénile. J'avais remarqué depuis quelque temps déjà que ça n'allait pas. Et tout se précipite. On lui diagnostique dans la foulée un cancer du pancréas. Et en 2 mois et demi, il meurt. J'avais des rapports très compliqués avec lui. Il n'empêche que c'est très douloureux. En plus, j'ai plus ma mère, donc je n'ai toujours connu que mon père. Et j'ai un peu l'impression de traverser ça toute seule. Philippe, je pense qu'il sait juste pas comment agir avec moi, comme on est déjà très distants. Il n'arrive pas à trouver sa place, donc il ne me soutient pas comme moi j'aimerais qu'il me soutienne. En même temps, à l'époque, je lui en veux énormément. Avec le recul, je comprends tout à fait que c'était compliqué pour lui. Et ça le met mal à l'aise, je pense. Il ne sait pas gérer ma souffrance, en fait. Donc ça nous éloigne encore plus. Et quand mon père meurt, je me dis, c'est un point de non-retour pour moi. Donc je ne sais pas comment va se dérouler l'année suivante, mais il se trouve que l'année suivante, Philippe perd son père aussi. Au moment où j'avais décidé de franchir le pas de la séparation, de le quitter, donc il perd son papa. Plus de 2 mois après, il fête ses 50 ans. Et là, je me dis, on fête ses 50 ans et je m'en vais. Alors après, je ne me suis pas dit, fête ses 50 ans à telle date et 2 jours après, je m'en vais. Mais je sais que ce sera dans les semaines qui suivent. C'est une décision qui est mûrie et bizarrement, ça ne me ressemble pas, mais je n'arrive pas à la prendre. J'ai toujours sauté des caps très facilement. Le changement ne me fait pas peur. J'ai pas peur d'être seule. Au contraire, c'est un truc que je souhaite ardemment. J'ai besoin de me retrouver. Mais je n'arrive pas à prendre cet élan pour franchir le pas. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais y arriver. Donc, en fait, c'est 50 ans. Je lui fais une belle surprise. Je l'emmène ses jours en Provence, dans un superbe hôtel où il y a un cours de tennis. Nous, on est fans de tennis. Il y a une piscine, etc. En réalité, c'est le dernier jour d'ouverture de l'hôtel. Donc, en fait, il y a une espèce d'ambiance un peu mort à Venise, très bizarre. Bon, alors, c'est mon ressenti. Hein. J'étais pas bien à l'époque, mais quand même. On est en Provence, il a plu 5 jours non-stop. Donc en fait, on était enfermés ou dans la ville sous un parapluie. Et je me rappelle, je me retrouve dans une librairie dans le centre-ville d'Arles, puisqu'on est en Arles. Et je me dis, mais vraiment, je touche le fond, qu'est-ce que je fais là? Enfin, je suis au bout de ma vie, vraiment. On rentre à Paris, Noël se passe. Bon, je ne prends toujours pas ma décision, bizarrement, alors que je me sens prête. Et puis 2020 arrive. Début 2020, je fais un séjour en Suisse en train avec une amie qui travaille sur un livre sur les voyages en train. Et c'est le début pour moi d'une nouvelle vie, c'est-à-dire que je me dis, je vais pouvoir faire ce genre de choses très souvent si je me décide, etc. Donc je goûte un peu à ça. Et puis la pandémie arrive. Et là, ça devrait être l'angoisse maximale dans la mesure où j'ai décidé de quitter mon compagnon. On est enfermé avec tous les enfants. Je me dis comment on va se sortir de ça. Et en réalité, tout se passe très bien. C'est-à-dire que je suis en mode robot, je suis dans la logistique. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai un boulot de dingue. J'ai même de plus en plus de boulot, donc alléluia. Et je me dis même pour ma vie d'après, c'est très bien, parce que je prends tous les contacts qu'il faut et je fidélise les clients existants, etc. Et le quotidien se passe comme ça. Et en réalité, je comprends que ce qui m'arrange bien dans l'histoire, c'est qu'on n'est jamais à deux. On est toujours à 3, 4. On n'est jamais seuls tous les deux. Donc, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dispute. Et il y a une espèce de situation transcendantale qui est au-dessus de nous et qui fait que ça relègue tous mes questionnements. Alors, ils sont là, les questionnements. Je dors mal, j'y pense tout le temps, j'appelle ma sœur souvent en lui faisant part de tout ça. C'est une angoisse qui est diffuse, mais il y a quelque chose de plus fort que nous à ce moment-là qui fait que ça diffère encore la décision. Bon, la fin du confinement arrive, nous partons chez des amis en se disant « libération, on est très contents ». Et là, ma décision est prise. Donc, on est tous les deux avec Philippe. On se retrouve pour la première fois tous les deux depuis le début du confinement, en Normandie, donc cet endroit qu'on adore tous les deux, à Cabourg. Et je lui annonce que je veux me séparer. Il est assis, et heureusement, parce que je le vois littéralement changer de couleur. Il devient tout blanc. Il a du mal à y croire. Il réagit pas, pour ainsi dire. Il est sous le choc. Et dans les jours qui suivent, donc on rentre à Paris, c'est très bizarre, il a une réaction étrange, il fait un peu comme si de rien n'était. Donc moi, je le vis mal, je trouve ça violent. Je trouve que c'est une forme de déni. De toute façon, je suis en colère à ce moment-là. Et je pense que la colère, c'est un bon moteur, ça aide à partir. Donc je lui en veux de tout, y compris de choses qui sont pas de son ressort. Pour lui, ça tombe un peu de nulle part. Parce que pour lui, 6 mois se sont écoulés depuis nos dernières disputes, et donc la chose est réglée. Je pense que ça l'arrange de penser comme ça, et il n'a pas compris, je pense, à quel point le mal était profond, d'où le choc. À partir de là, je me mets en quête d'un appartement, je travaille beaucoup, lui part en vacances avec ses fils. On a des échanges très tendus, très froids, lui a beaucoup de ressentiments, moi je lui dis des choses très dures. Donc je lui reproche tout, sa non-présence, son non-soutien à la mort de mon père, la façon dont il a fonctionné avec les enfants, voilà, enfin le classique quoi, je rejette un peu la faute sur lui. Je sais bien qu'une séparation on l'a fait à deux, mais voilà. Ça m'arrange, je pense, à ce moment-là de réagir comme ça. Au moment où je trouve mon appartement, c'est un moment d'accalmie. On est en plein cœur de l'été, c'est marrant, c'est un peu comme l'année où on s'est rencontrés. Et on se retrouve un peu tous les deux. Et là, il fait des concessions sur des choses sur lesquelles il était complètement rebuté jusqu'alors. Il concède que oui, effectivement, il a mal agi à tel ou tel moment. Enfin, une espèce de dialogue qui se réinstaure un peu. Et clairement, il me reséduit. Il veut me reséduire, en tout cas. Et là, il y a un rapprochement physique, voilà, donc je retombe dans ses bras. Mais je me dis pas, on se remet ensemble. Je me dis, bon, ben voilà, je suis rattrapée par ça, parce qu'il faut savoir qu'on a toujours eu cette dimension physique très forte entre nous. C'est un truc chimique, pareil, complètement banal, mais c'est une réalité. Et je pars en vacances en lui disant, écoute, on se donne pas de nouvelles, moi j'ai besoin de prendre le large. Alors, je pense que lui, il le vit pas très bien parce que il sait pas sur quel pied danser quand même, hein. Je l'ai quitté il y a un mois. Je suis retombée dans ses bras. 2 jours après, je pars en vacances. Entre temps, j'ai trouvé un appartement où je vais vivre sans lui. Ça fait beaucoup. Mais il respecte. Et quand je rentre de ce road trip qui est absolument génial avec ma sœur et nos enfants, on se retrouve très bien. Je m'installe dans un appartement meublé. Donc, c'est bien parce que du coup, c'est comme si j'allais un peu à l'hôtel. Ça fait pas vraiment séparation. J'emporte rien de la maison. Et donc, 1 ou 2 mois se passent comme ça. Et puis, un nouveau confinement arrive où je me souviens plus, mais un couvre-feu. Enfin, bref, ça se recomplique un peu. Et on est bien tous les deux. Moi, je parle pas de revenir m'installer à la maison. Et je pense que Philippe le vit très mal. Je pense qu'il s'est imaginé que comme on s'était retrouvés, j'allais revenir aussi vite. Et il y a un énorme malentendu qui se réinstalle entre nous. Et il me met un ultimatum. Enfin, il met pas d'ultimatum, il me dit, écoute, tout le mois de décembre, on se voit pas, on se parle pas, on fera un point après Noël. Je veux être sûre de mes sentiments. Alors, je sais pas si inconsciemment, il veut me rendre un peu la monnaie de ma pièce sur la séparation et me faire ressentir ce que lui a pu ressentir. Je crois pas, parce qu'il est, c'est pas quelqu'un qui est malfaisant ou voilà, je pense pas. Mais c'est un peu l'effet que ça me fait. Et surtout, pour moi, c'est le pire moment pour me poser cet ultimatum parce que nos retrouvailles reposent sur quelque chose de très fragile, à mon sens. Lui pense que c'est reparti comme avant. Moi, je sais que ça tient à un fil. Et ce fil vient de le couper. Et il le sait pas. Donc après Noël, il me recontacte comme si de rien n'était. Entre-temps, mon fils a eu 18 ans à l'époque. Philippe ne s'est pas manifesté, donc ça me fait quelque chose. Il y a plein de petites choses comme ça qui me réagacent, qui me replongent dans tout ce qui a précipité ma décision. Et donc, on se retrouve le lendemain de Noël et je lui dis, écoute, là, c'est vraiment fini, pour le coup. Donc, nouveau choc pour lui. Moi, ça y est, je suis décidée à tourner la page, à essayer autre chose seule, autre chose, pas du tout une nouvelle rencontre, je sais même pas un sujet, en fait. Mais je veux me retrouver avec mon fils tranquille, me retrouver en paix et redémarrer quelque chose, quoi. Et me retrouver, voilà, c'est le maître mot de cette période-là. Et donc, pendant 6 mois, c'est ce que je fais. Je travaille, je déploie encore mon réseau, je travaille énormément, je m'occupe de mon fils qui est en phase d'orientation, donc voilà, je m'implique énormément, je suis parent d'élèves, enfin, j'adore, en fait, je vois mes copines. C'est une liberté retrouvée, en même temps, j'en fais pas grand-chose, hein, c'est-à-dire que je sors pas tellement plus, mais c'est une liberté de l'esprit. Et je sens que je reprends un souffle, que je me reconstitue. Et avec Philippe, on se voit une ou deux fois et je sens qu'il reprend un peu espoir. Donc, je recoupe à nouveau. C'est des stop and go comme ça, sans arrêt. Et puis, on est fin 2021. Et là, je n'ai plus de nouvelles de lui. Je pars au Mexique avec ma sœur. En mode vacances, j'oublie tout. Les confinements, c'est fini, etc. On va souffler toutes les deux. Je souhaite une bonne année à Philippe en lui disant que je lui souhaite tout le bonheur. Je ne croyais pas si bien dire. Tout le bonheur du monde, qu'il mérite d'être heureux. Enfin, je sens qu'il y a un apaisement de ma part et de la sienne. Il me répond qu'il va beaucoup mieux. Et moi, j'ai un début d'année 2022 qui est un peu compliqué. Ma grand-mère très âgée, qui a failli mourir. Enfin, des petits événements comme ça, des petites contrariétés qui s'ajoutent. Et puis, je me sens bizarre. J'ai comme une espèce de pressentiment. Avec le recul, vraiment, je l'analyse comme ça. Et au moment de mon anniversaire, qui tombe un 1er avril, il neige. Et je fais un peu un bilan et je trouve que c'est pas génial, en fait. J'ai pas l'impression de faire des trucs dingues depuis que je suis seule. Voilà, c'est en demi-teinte, j'ai pas le moral, voilà. 15 jours plus tard, donc le 15 avril, je vais à mon cours de tennis avec un ami et on décide de déjeuner ensemble à la sortie de ce cours, ce que je ne fais jamais. D'habitude, je rentre parce que j'ai plein de boulot. Et là, je trouve du temps, donc je passe pas du tout par le même chemin. Et je passe en bas chez Philippe, donc mon ancien chez moi. Et à peu près une centaine de mètres avant d'arriver à l'angle, j'y pense même pas, en fait. Je le vois sur le trottoir en train d'embrasser une femme. Et là, comment dire, c'est tellement violent que mes jambes se dérobent et que, heureusement, j'ai un copain à côté de moi pour me soutenir. C'est une sensation physique très, très forte et Philippe ne nous voit pas. Et donc, il retourne chez lui. Je sais plus exactement ce qui se passe. Donc, nous, on continue notre chemin jusqu'au restaurant qui est un peu plus loin. Et là, je pleure, mais comme à gros sanglots, comme un enfant qui a un gros chagrin, quoi. Quelque chose d'irrépressible, de physique, de violent. Ce qui est un peu gênant, parce que je suis avec cet ami, bon, heureusement, il me connaît bien, il connaît notre histoire. Et donc, lui sait qu'il est avec quelqu'un, donc avec cette femme avec laquelle j'ai croisé Philippe. Et j'ai donc reconnu la personne et c'est une ancienne collègue à lui avec qui il a travaillé 10 ans plus tôt et qui est partie vivre loin dans les dom-toms et voilà. Et c'est un double choc parce que cette femme, c'est un peu mon opposé, je dirais, dans le sens où elle a tous les codes de la féminité, elle est très apprêtée, très belle femme d'ailleurs. Et bref, donc ça me fait bizarre, j'ai comme l'impression d'une trahison. En même temps, je sais qu'il s'est rien passé entre eux à l'époque, j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, donc je suis avec ces sentiments un peu moches, je dirais. Je rentre chez moi et je suis dévastée, j'ai pas d'autres mots. Et je me dis que ça va passer. Je me dis, j'en parle avec des copines évidemment, débrief avec toutes les copines, ma sœur. Je passe mon après-midi au lieu de bosser à faire ça. Et je ne fais que pleurer. Dès que je me pose un peu, je pleure. Et je me dis, ça va passer, c'est une réaction d'orgueil. Ça me renvoie à ma solitude, au fait que j'ai rencontré personne dans l'intervalle. Ça me renvoie à mon âge aussi. C'est plus compliqué pour une femme de mon âge. J'ai 47 ans à l'époque. Et donc, la douleur est très, très vive, vraiment. Et elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Et au fil des semaines, elle ne passe pas. Elle ne fait même qu'empirer. Je pars avec ma sœur à Barcelone en me disant « je change les idées, etc. » En réalité, là-bas, la nuit, je ne dors pas. Je pense à lui. Et sur le moment, je n'échange pas avec lui tellement sur le sujet. Je souffre trop, je me dis que j'ai pas le droit. Et au bout d'un moment, je m'autorise à le faire. Je m'autorise à lui faire part de mes sentiments. C'est pas du tout pour l'embêter ou l'empêcher de vivre son histoire, mais je me dis que il comprendra, que ce sera bien reçu. Et je suis pas du tout véhémente dans ce que je lui dis, mais je lui fais simplement part de ma douleur, que je ne me l'explique pas, que je m'excuse par avance de le déranger, mais voilà, que c'est irrépressible et que je ne sais pas quoi en faire, et que c'est trop lourd à porter seul, en fait, et que finalement, il n'y a qu'à lui que je peux en parler vraiment, et qu'il n'y a que lui qui peut comprendre. Donc au début, il me fait part évidemment de son étonnement. Il est très franc et très clair sur les sentiments qu'il a pour sa nouvelle compagne. Il me dit clairement qu'il l'aime. Donc je me dis, ben voilà, je vais pouvoir tourner la page. Maintenant que je sais ça, c'est une forme de soulagement, et en réalité, le soulagement dure une heure. Et ça repart de plus belle. La souffrance repart. Je ressens au fond de moi comme un abandon, comme une blessure d'enfance, comme je me dis, la personne qui m'a le plus aimée, je parle dans les relations amoureuses et peut-être que je me trompe. C'est-à-dire, même cette personne-là m'abandonne alors que c'est moi qui l'ai abandonné. C'est ça qui est fou. Mais je ressens vraiment ça. C'est complètement irrationnel. Je ressens une tristesse infinie. Et je vois pas comment la guérir. Je vois pas par quel biais ça va pouvoir aller mieux. Alors, j'ai mes amis qui sont très présents, ma sœur aussi, parce que j'ai une famille très réduite. Mais je ne passe pas le cap. Et puis, je recroise Philippe toujours l'été. Hein, c'est toujours des moments cruciaux pour nous. Je le recroise juste avant qu'il parte en vacances avec sa compagne. Donc, ils se sont prévus un séjour en amoureux en Italie, puis en Corse, dans un endroit qu'on avait découvert tous les deux. Ça, je le saurai après. Cette perspective, évidemment, me fait souffrir un peu plus. Mais je me dis, je peux pas souffrir plus que ça. Donc, bizarrement, l'effet s'inverse. Je retrouve un peu de légèreté. Et je le croise à une soirée de notre club de tennis, toujours le tennis. Et là, je me sens mieux. Je me sens plus légère. J'ai l'impression que je suis en train d'avancer un peu. Et c'est lui, à ce moment-là, qui me dit... je sens qu'il vacille un peu et qui me dit « Mais en fait, si t'es revenu vers moi comme ça, c'est parce que je suis avec quelqu'un. J'aimerais bien comprendre. » Et je me dis « Ah tiens, s'il se pose la question, c'est que c'est pas si clair pour lui. » Et il me dit « On se reparlera après les vacances. » Et cette phrase, elle résonne bizarrement. Je me dis, mais en fait, si pour lui c'est clair, il n'y a rien à discuter après les vacances. Et donc, je me dis, ah, donc il y a une porte qui s'entr'ouvre. Je ne sais pas quoi faire de ça en réalité, parce que jusqu'alors, j'étais dans la souffrance et je n'imaginais même pas qu'une l'histoire pouvait recommencer. Et je me disais, comment ça peut recommencer? C'est tellement un tas de cendres, en réalité, que je ne vois pas sur quoi ça peut repartir. Et là, j'avais prévu de partir un mois en vacances avec ma sœur. On monte dans le train, je n'ai pas dormi de la nuit, évidemment, donc j'arrive avec une tête épouvantable. Et là, elle me dit, je te préviens, j'ai envie de passer des bonnes vacances. Tu vas passer des bonnes vacances. Donc, si tu veux, on se fait tout le trajet en train, 5h30. On parle de ça. On débriefe dans tous les sens. On décortique tout. On épluche tout. Mais après, on n'en parle plus. Tu n'en parles plus. Et tu profites. Et tu verras, en rentrant, tu déposes ça dans un coin. Et je lui dis banco. Donc, évidemment, pendant 5h30, on en parle. Je pleure encore, etc. On arrive à la montagne où on retrouve des amis. Et quand même, une dernière fois, je regarde Instagram et je vois que la compagne de Philippe a posté une photo dans l'hôtel qu'on avait découvert tous les deux en Corse. Et là, c'est l'ultime pour moi, c'est le coup de poignard. Et là, je me dis, bon, ben là, je touche le fond. Hein, donc, effectivement, c'est un détonateur, enfin une décharge pour moi. Et je me dis, non, mais là, il faut vraiment que j'arrête. Et pendant un mois, j'arrive complètement à retrouver la légèreté, à reprendre mon souffle, à me dire « je ne peux pas aller plus mal que ces derniers mois ». Je me dis « quoi qu'il se passera à la rentrée, ce sera bien et c'est ce qui doit se passer ». Et je laisse faire les choses, ce qui n'est pas mon caractère. Et Philippe, n'ayant pas de nouvelles de moi pendant un mois, quand même, se retrouvant seul à Paris après ces 3 semaines idylliques, s'étonne quand même par mail de ne pas avoir de mes nouvelles. Et moi, je lui réponds, je réponds à ses questions, mais je reste très évasive. Je me dis « moi, je reprends un peu le pouvoir sur l'histoire ». Et voilà. Et donc, c'est assez plaisant. Nos échanges sont assez légers, voilà, rien de plus. Mais quand même, dès que je rentre à Paris, le lendemain, je lui écris et je lui dis « on se voit quand ?» Il me donne une date qui est une semaine plus tard. Et j'insiste pour qu'on se voit chez moi, parce que la dernière fois qu'on s'était vus tous les deux, on s'était vus dans un bar et j'avais pleuré quasiment tout le temps. Donc je me dis « je vais m'épargner ça » et je lui dis « écoute, je voudrais être dans un endroit sécurisé, entre guillemets, où on est tranquille, on n'est pas interrompu. » Et c'est vraiment sans arrière-pensée. J'ai pas mis les petits plats dans les grands, il n'y a pas de lumière tamisée. Et arrive Philippe, donc que j'ai pas vu depuis 2 mois. Et là, quand je le vois, choc physique, quoi. Il arrive avec des fleurs, Philippe, quoi. Tout sourire, magnifique, hyper attentionné, hyper gentil. Voilà, et puis le dîner se passe tranquillement. On se raconte un peu nos vacances, plus ou moins. J'ai pas tellement envie qu'il me raconte les siennes, à vrai dire. Et puis on parle de tous ces mois qui sont passés, de toute cette souffrance, de ce que lui ressent dans sa nouvelle vie, qu'est-ce qu'il en attend. Et là, il m'avoue que je l'ai fait complètement vaciller ces derniers mois, qu'il pensait avoir complètement tourné la page et qu'en fait, il se repose des questions. Alors évidemment, il est très prudent, il a beaucoup souffert, il me redit qu'il a énormément souffert. Et voilà. Et donc, on a un rapprochement très tendre. On en reste là parce que lui, il a son cœur ailleurs pour le moment. Mais on se dit qu'on va se revoir, en reparler, etc. Et voilà, donc les semaines qui suivent, on échange, c'est très doux. Et on a quand même des discussions assez importantes. C'est-à-dire que moi, je dis très vite que, en tout cas, pour l'heure, je ne veux pas revivre avec lui. Et je mets une condition, je dis, on ne revivra pas ensemble tant qu'on aura nos enfants. Et ça, il en convient tout à fait. Enfin, on n'imagine pas revivre ensemble avec nos grands-enfants. Et il se sépare de sa compagne. Et là, il me dit, ben voilà, maintenant, je suis 100% avec toi. On retente quelque chose, il me dit, je m'en fous, je suis prêt à prendre ce risque. Je suis prêt à prendre le risque de souffrir à nouveau, mais c'est ce que je veux et je sais que c'est ce qui me rend heureux. Moi, je me laisse porter par ce que je ressens. Déjà, j'ai un grand soulagement après les mois que je viens de traverser de tempêtes sous un crâne et de tempêtes émotionnelles. J'ai l'impression de rentrer à la maison, littéralement. Mais pas de manière calme, avec les sentiments de nos débuts qui reviennent très fort. Et surtout, ce qui change la donne aussi, qui fait que je retombe amoureuse de Philippe, littéralement, parce que je ne l'aimais plus, c'est une réalité. Je retombe amoureuse de lui parce qu'en plus de cette attraction qui revient, cette alchimie qui se recrée comme par magie, on a des discussions où on arrive à mettre tout à plat sans même se concerter vraiment. C'est-à-dire que les discussions s'amorcent et on reparle de sujets qui étaient jusqu'alors inabordables. Et moi, j'ai bougé, lui a bougé. J'ai un regard beaucoup plus indulgent sur les choses. J'ai été seule pendant un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir et de me rendre compte de ce que je n'avais plus, en fait. Et de toute la valeur et de tout ce qui représentait pour moi et de tout ce qui m'apportait, finalement, tout ça, je l'avais oublié au fil des ans. Et donc, je retrouve tout ça petit à petit. Je me dis, il est capable d'aimer ailleurs, je peux le perdre. Je sais que je peux le perdre. Et en fait, je crois qu'il m'avait manqué un peu ça. Alors, c'est toujours très compliqué, les sentiments. On ne sait pas pourquoi on retombe amoureux, mais là, c'est vraiment la sensation que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, on s'est retrouvés en octobre-novembre 2022. Et depuis, on vit donc chacun chez soi, avec le projet de revivre ensemble un jour, mais tous les deux. C'est-à-dire, une fois que nos deux plus jeunes enfants, qui ont maintenant 21 ans, seront partis, on se retrouvera sous le même toit. Et puis, en juin 2023, sans que je l'aie prémédité, je l'ai demandé en mariage à Cabourg, qui est notre endroit. Cabourg, c'est l'endroit où on a passé notre premier week-end en amoureux, où on s'échappait un peu, lui, de sa séparation difficile et moi, de ce changement de vie. On a un attachement particulier à cet endroit. Moi, j'ai un petit appartement là-bas. Et c'était un moment parfait, un moment suspendu où je me sentais complètement apaisée et on se baignait tous les deux. Et en sortant de l'eau, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai demandé s'il voulait m'épouser. Il a dit oui, tout de suite, à ma grande joie. Et quand même, quelques jours après, il me dit « oui, trois petits points si on revit ensemble ». Donc, c'est la condition. Il m'a freiné un peu, moi, petit bélier qui fonce toujours dans les murs. Lui, qui a tendance à temporiser, il m'a freiné un peu sur ce plan-là. Une façon aussi de me signifier que j'ai pas toujours la main sur toutes les décisions dans notre couple. Et je trouve ça très bien. Donc, je sais qu'il y a ce projet qui se profile et je m'en réjouis parce que c'est quelque chose qu'on va faire. Je sais pourquoi je l'ai re-choisi. Je mesure la chance que j'ai de l'avoir dans ma vie et je me dis j'ai failli le perdre pour toujours et je l'avais perdu pour toujours. Et donc ça aura un sens, mais décuplé, je pense beaucoup plus que si on s'était marié il y a 10 ans, avant les conflits. Ce qui me pousse à témoigner, c'est que s'il y a bien un domaine dans lequel rien n'est figé, mais vraiment rien, c'est celui des sentiments. Ça peut rendre très malheureux quand un amour pur, un amour fort, il y a des gens qui connaissent jamais ça dans leur vie. Quand ce genre d'amour se ternit ou s'affadit, c'est une grande douleur. Et on pense que on s'en réparera jamais, on n'en guérira jamais. Et c'est la preuve que peut-être que quand cet amour est si fort, il peut avoir plusieurs vies et renaître. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, honnêtement. Avec tout ce qu'on a traversé, ça va faire 18 ans cette année qu'on se connaît. Alors Philippe, lui, il décompte. Il aime bien me taquiner là-dessus. Il décompte l'année et demie de séparation, bon. Mais moi, je sais que tous les 3 mai de chaque année, depuis 18 ans, je pense à ce déjeuner, à ce mail, à cette réponse. et à tout ce qui a suivi, et je me dis c'est fou. Et ça donne un espoir dingue. Rien n'est jamais figé, et surtout, on évolue tout le temps. Et dans les sentiments, voilà, tout ce qu'on croyait mort peut renaître. C'est hyper émouvant, en fait. Je pense à ça tous les jours. Et je mesure ma chance.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.